Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Hospitality, le podcast qui décrypte avec vous les visions de différents acteurs qui font bouger notre secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec pour vocation l'inspiration, je vous invite à me suivre, moi, votre hôte Mathilde, à travers mes échanges spontanés avec différentes personnalités. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier avec Marie Fougerousse, la directrice de l'hôtel Indigo Beach à Zanzibar, à plus de 6,5 km de nous actuellement en France. J'espère que cet épisode vous fera voyager et j'espère que vous aussi ressentirez les réelles sensations que procure ce partage d'expériences, car Marie est une personne très bienveillante qui a découvert une autre culture et qui nous partage volontiers ce qu'elle vit au quotidien sur cette belle île de Zanzibar. Aussi, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet de vraiment développer le podcast. Aussi, si votre plateforme de prédilection n'est pas Apple, mais Spotify, Deezer, SoundCloud ou autre, vous pouvez toujours retrouver les liens dans la bio de mon profil Instagram, @esprithospitality. Très bon voyage à vous! Alors, bienvenue Marie sur mon podcast. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Écoute, j'attends de toi que tu nous fasses un petit peu voyager parce que tu es actuellement à Zanzibar. Alors, exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais là-bas et nous rappeler où c'est aussi?
Alors, donc Zanzibar, c'est une petite île sur la côte est de l'Afrique. Ça fait partie de la Tanzanie.
D'accord. Voilà, donc, bien loin de chez nous.
C'est ça, exactement. Quelques kilomètres.
Et donc exactement. Moi, Zanzibar, et qu'est-ce que tu fais là-bas?
Alors moi, à Zanzibar, je suis directrice d'un petit boutique hôtel de 17 chambres.
D'accord. Qui s'appelle
Indigo Beach, qui est sur la côte est.
Ok. Ça fait combien de temps que tu es là-bas, du coup?
Ça va faire un an et demi maintenant.
Et donc, si je connais bien un petit peu ton parcours, donc toi, tu as commencé par une école hôtelière, c'est bien ça?
Exactement, j'ai commencé par faire l'école Vatel, complètement par hasard. C'était, pour tout dire, à la base, c'était un challenge personnel de faire cette école. Et voilà, j'ai fait donc 5 ans à Vatel et puis maintenant Zanzibar.
Quand tu dis un challenge personnel, c'est parce que tu avais des antécédents familiaux dans ce monde de l'hôtellerie-restauration ou pas du tout?
Alors, pas du tout, pas du tout du tout. Enfin, moi, c'est un secteur que je connaissais absolument pas. Et en fait, en dernière année, l'année du bac, je pense comme pas mal d'étudiants, j'étais complètement perdue sur ce que je voulais faire plus tard, sur mon orientation. Et un jour, j'ai des amis qui me disent « Allez Marie, viens, on va au salon de l'étudiant. » Je dis « Bon, ok, bon, je les suis un peu entrée dans la patte. » Et une de mes amies, en passant devant le stand Vatel, me dit « C'est cette école que je vais faire, ça fait des mois que j'en rêve, je veux faire cette école. » Bon, moi, ok, l'hôtellerie-restauration, pas trop d'intérêt par rapport à ça.
Elle dépose. Je connais pas trop.
Ouais, non, je connaissais pas du tout. C'était vraiment, enfin, pour moi, ouais, voilà, c'était vraiment un monde complètement inconnu, quoi. Enfin, donc voilà, elle dépose son dossier et son dossier refusé. Donc, je dis bon, mince, la pauvre et tout, pas de chance. C'est quand même dommage pour elle. Enfin bon, voilà. Une deuxième amie.
Et toi, à l'époque, tu t'orientais sur quoi avant de te dire je vais postuler à...
Moi, j'étais plutôt partie sur un BTS commerce international, parce que j'avais toujours eu dans l'idée en fait que je voulais faire un métier déjà ouvert sur le monde, et puis surtout je voulais faire un métier que je puisse faire partout dans le monde. Contrairement, je donne toujours l'exemple un petit peu par exemple quand on est avocat, on apprend des lois qui sont spécifiques à un pays, donc c'est un petit peu difficile d'exercer ce métier dans un autre pays. Alors que, par exemple, l'hôtellerie-restauration, bon, voilà, il y a un petit peu des différences en fonction des pays, mais ça reste une base un petit peu similaire pour tout le monde, quoi.
Oui, puis tu as l'opportunité de pouvoir voyager. Je pense que quand on est jeune, on a tous envie de le faire. Donc,
exactement.
C'est vrai que c'était des beaux métiers aussi qui donnaient envie par rapport à ça.
Exactement. Et donc, du coup, pour continuer donc mon histoire, donc cette deuxième amie, pareil, pose son dossier pour Vatel et dossier refusé également. Et là, je commence à me dire, mais c'est pas possible, c'est quoi cette école?
Cette école?
Voilà, mon Dieu, mais il faut être Einstein pour pouvoir y accéder et tout. Et donc, je me suis dit, bon, allez, Marie, de toute façon, t'as rien à perdre, tu sais pas ce que tu veux faire, pose un dossier, et puis de toute façon, tu verras bien après, quoi. Je pose mon dossier, accepté. C'était bon. une semaine avant les concours, ils me disent, donc c'était vraiment la dernière minute, quoi. Et ils me disent, ok, dossier accepté, dans telle date, donc dans une semaine après, concours. Je fais, bon, purée, je commence à discuter un peu avec mes parents. Mes parents me disent, écoute, passe le concours, ça te fait une expérience. Même si c'est pas ce que tu veux faire, au moins, bon, voilà, tu rencontres des gens, tu parles. Puis au moins, tu auras l'expérience d'avoir passé un concours, quoi. Donc, je passe le concours.
Oui, c'est toujours bon à prendre.
Voilà, exactement. Je passe le concours. Alors moi, j'avais toujours pas ouvert la page Vatel sur Google. Hein. Je savais très vaguement ce que c'était, mais j'avais pas plus d'informations que ça. Je débarque au concours, jean troué, vieux pull. Voilà, je vois tout le monde en uniforme, en costume, tiré à quatre épingles. Alors là, déjà, je me dis bon, Marie, écoute, t'as plus rien à perdre.
C'est quoi ce monde?
Voilà, c'est ça. Bon, de toute façon, t'es à côté de la plaque, tu fais ce que t'as à faire, et puis bah, tu verras bien ce qui en découle. Je fais l'entretien, blablabla, il y avait deux, trois épreuves, je fais les épreuves, une semaine, 15 jours après, je reçois donc le résultat du concours, concours validé, rendez-vous avec la directrice pour concrétiser l'inscription 3 jours après. Là, je commence à me dire, mais bon, ça va un peu vite, là. Faut quand même que je sache un minimum de quoi ça parle et tout. Enfin bon, donc j'en parle un petit peu avec mes parents. Et bref, voilà, je me lance dans l'aventure et c'était parti.
Et là, ça t'a pas fait peur de dire, en fait, je vais rentrer dans un monde où c'est un petit peu strict, justement, uniforme, bien poli, etc.
Alors moi, l'uniforme me faisait pas peur du tout parce que j'avais déjà fait... je suis allée... faire quelques mois d'études en Australie, et en Australie il y avait déjà l'uniforme, donc l'uniforme me faisait pas peur du tout.
Et plus non. Par rapport aux valeurs, tout ce qui était voilà, le grand respect, être très très bien, voilà, toujours très bien apprêté, toujours souriant, poli, etc. Enfin, parce que c'est quand même des codes de l'hôtellerie restauration qui sont assez prédominant, oui. Et c'était vraiment ça que tu voulais dans les études. Enfin, après, tu t'es rendu compte que c'était des valeurs que tu partageais aussi.
Oui, je pense que ça m'a. Enfin, ces valeurs m'ont jamais fait peur parce que je pense que c'est personnellement, c'est des valeurs que j'ai toujours eues. Donc, je pense pas que. Enfin, j'ai pas le souvenir, en tout cas, que ça m'ait vraiment marqué, fait peur. Je me souviens avoir eu. Enfin, peur, après, c'est un bien grand mot, plutôt un peu de l'appréhension, mais je pense que c'était juste le fait de passer du collège aux études supérieures. Mais spécifiquement, Vatel, j'ai pas vraiment de souvenir que ça m'ait fait peur avant de vraiment commencer l'école, quoi.
Oui, en fait, tu t'es dit, ça va bien me convenir, il n'y a pas de souci.
Exactement. Exactement.
Et au final, ce que tu en as retiré, enfin, c'est quoi selon toi les meilleurs moments que tu as passés dans cette école? Enfin, qu'est-ce que ça t'a réellement appris, en fait, plus que bien sûr les cours, etc. Mais est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu en as pensé, ton expérience là-bas, parce que tu as terminé maintenant?
Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était pratique au sein de l'école, l'opportunité qu'on a eue d'aller faire des semaines de pratique dans des établissements extérieurs, rencontrer tous les professionnels qu'on a la chance de rencontrer, les stages aussi qui sont extrêmement formateurs, aussi bien au niveau du professionnel que du personnel. On rencontre énormément de gens d'horizons différents, avec un passé, des histoires, différentes, et ça j'ai trouvé très intéressante, et c'est aussi quelque chose que j'apprécie également beaucoup dans le, enfin, dans mon travail actuel, parce que vu que je travaille dans une petite structure, je suis la directrice, donc j'ai tout ce qui est back office à faire, mais je suis également beaucoup en contact avec la clientèle. C'est moi qui tient la réception, hein, qui fait les check-in, les check-out, je fais de la conciergerie, des choses comme ça. Et ce que je trouve très intéressant, c'est tout ce contact qu'on a avec des gens qui sont, enfin, qui ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est très, très enrichissant, très, très, enfin, très formateur.
Parce que comment t'en es arrivée à devenir directement la directrice? C'est quelque chose que t'as toujours voulu faire quand t'étais en études à Vatel ou tu t'orientais plutôt vers d'autres métiers dans l'hôtellerie?
Non, alors moi je savais que je voulais quelque chose d'assez général. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite et qui aime pas du tout tout ce qui est monotone. Donc je me voyais pas du tout être coincée dans un bureau et tous les jours me dire bon bah voilà bon que ce soit de la finance, du marketing, je
oui,
me voyais
tout le back
pas.
Office, c'était pas pour toi.
Voilà, déjà ça. Après bon, être en contact avec les clients, bon comme je disais, je l'adore, mais après. Bon voilà, au bout d'un moment, les clients, ils sont gentils, hein, mais ils sont fatigants aussi. Et donc voilà.
Oui, donc tu ne te voyais pas être dans la restauration non plus. Tu ne te voyais pas dans le côté restauration.
Non, restauration, je ne pense pas. Non, j'ai vraiment trouvé un bon équilibre ici. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est une petite structure. Donc, c'est moi qui gère beaucoup de choses. Tout ce qui est la partie hébergement aussi bien que la partie restauration. Donc j'ai vraiment en fait voilà, je suis vraiment le si je peux dire un petit peu le cœur de l'hôtel et c'est un petit peu moi voilà qui gère un petit peu tout à tous les niveaux quoi et c'est très 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 intéressant.
Est-ce que tu peux revenir sur ton arrivée dans cet hôtel, comment ça s'est fait et par quoi tu es passée donc, pour arriver à être la directrice de cet hôtel?
Alors, à la base, donc, bon, c'était le stage de cinquième année, donc le stage de fin d'études. Il fallait donc faire trouver un stage et moi j'avais commencé un petit peu à faire des recherches dès la quatrième année parce que j'avais beaucoup de stress de me retrouver à une semaine du début du stage sans rien avoir trouvé. Donc j'avoue que depuis
sachant qu'en quatrième année vous n'avez pas du tout de stage.
Non, quatrième année il n'y a pas de stage. Quatrième année, il n'y a pas D'accord. de stage. Et après les stages qu'on fait en première, deuxième et troisième année, c'est des stages que l'école nous trouve directement. Donc en fait, j'avais jamais eu vraiment cette D'accord. pression de trouver moi-même quelque chose.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, beaucoup de pression sur le stage de cinquième année finalement.
Voilà, exactement. Et donc du coup, bon voilà. Donc dès la quatrième année, j'avais commencé à regarder un petit peu ce qui se passait sur des groupes, sur Facebook. Bon voilà, voir si je trouvais déjà un petit peu des endroits, des pistes. J'avais commencé à faire un petit carnet avec deux trois contacts et tout. Et devoir trouver le stage de cinquième année. Et je me suis rappelée que j'avais screenshot le contact de l'hôtel d'ici. Et je me suis dit, bon, bah allez, commence par là ta recherche de stage. Donc, j'ai envoyé un mail ici. Et effectivement, ils cherchaient encore des stagiaires pour cette année, enfin pour l'année où j'ai fait mon stage. Et réponse positive, donc voilà. Donc du coup, je suis venue ici à Zanzibar pour faire mon stage donc de cinquième année en tant qu'assistante de direction.
Donc pendant combien de temps le stage?
Alors de base, c'était 6 mois de stage obligatoire pour valider donc ma scolarité. Et sur place, déjà, je suis restée 8 mois. Au lieu de 6.
D'accord. Donc, plus, c'est déjà que ça t'a bien plu.
Voilà, exactement. C'est ça.
Et au début, aucune appréhension de te dire je pars quand même à Zanzibar, c'est l'Afrique. Tu t'es pas dit, vaudrait peut-être mieux que je fasse un stage dans une grande ville, un endroit plus safe, entre guillemets?
Alors, pas du tout. Bon, déjà, moi, de base, bon, j'adore voyager. J'ai fait. Quelques pays. J'avais fait mon stage de deuxième année en Nouvelle-Zélande Et pour moi, bon, sachant que bon, de base c'est un stage de 6 mois, pour moi c'était vraiment l'opportunité de voilà vivre quelque chose de complètement différent, de connaître quelque chose de différent, un nouveau pays, une nouvelle culture. Et dans tous les cas, même si ça me plaisait pas, bon, entre guillemets, c'était que 6 mois. Et après, après voilà, si vraiment j'avais détesté, je serais rentrée en France et c'était fini, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment profiter de cette période, enfin, de ces entre guillemets que 6 mois pour connaître vraiment quelque chose de complètement différent. Et dans tous les cas, même si ça m'avait pas plu, si j'avais pas décidé de revenir ici, pour moi c'est très important de connaître une autre façon de travailler. Avoir d'autres idées, d'autres voir autre chose. Après, même si j'étais retournée travailler en France ou en Europe, hein, dans un pays plus proche de mon éducation, de mes valeurs, ça m'aurait toujours servi, voilà, d'avoir eu une expérience avec des gens, une façon de penser, une culture différente de ce que moi je connaissais, quoi.
Parce que du coup, donc là, tu arrives à Zanzibar et ça se passe comment? Tu commences ton stage et comment tu le vis à ce moment-là?
Alors, bon, moi, il faut savoir qu'à la base, sans le savoir, on était deux à venir en stage. Deux de Vatel. On se connaissait pas du tout parce qu'à Vatel, il y a deux rentrées différentes. Donc, on s'était croisés une ou deux fois, mais on se connaissait pas vraiment. Donc on est venu à deux.
Ok, donc une chance quand même déjà.
Voilà, c'était quand même voilà quand même rassurant. Après bon voilà, moi j'avais jamais mis les pieds en Afrique, mis à part la Tunisie, mais bon, enfin quand on commence un petit peu plus à connaître l'Afrique, enfin ça c'est pas l'Afrique si je peux dire, c'est sur le continent africain, mais ça reste développé, voilà, contrairement à Zanzibar qui est très très pauvre et
c'est pas le même niveau des paysans.
Voilà, exactement. Donc du coup, bon, on descend de l'avion. C'est vrai qu'on est un petit peu. C'est un petit peu. Bon, voilà, on arrive.
Vous appréhendez.
En Afrique. ce qui est très drôle aussi, et ce qui commence tout de suite à mettre dans le bain, c'est qu'à l'aéroport, c'est juste une pièce. Hein, c'est pas. C'est une pièce. Et pour récupérer.
C'est pas un grand aéroport international, ça c'est sûr.
Pas du tout. Et pour récupérer les valises, en fait, il faut garder le numéro qui nous donne à l'enregistrement des valises pour pouvoir aller chercher la valise dans l'avion. Donc voilà, donc déjà là, on se dit bon.
D'accord, donc t'as ton petit ticket ouais, et puis.
C'est ça. Donc voilà, et puis bon, après, on prend le taxi. Il y a quand même 1 heure de route à peu près pour de l'aéroport à l'hôtel. Donc ça permet de voir un petit peu. Enfin, ça m'a permis de voir, d'avoir une première vision d'où j'étais. Et bon, après, on est quand même content, j'avoue, quand le portail de l'hôtel s'ouvre et qu'on voit quelque chose d'à peu près.
Ouais, tu dis, je vais pas rester dans la savane, quoi.
Voilà, exactement. Mais sinon, non, j'étais très, très contente d'arriver et de enfin pouvoir vivre mon expérience, mes 6 mois.
Et qui se sont passés, du coup, vite. Lentement, qu'est-ce que tu as fait comme découverte?
Bon, il y a toujours le petit passage où bon, c'est un petit peu long, mais bon, ça, je pense que c'est un petit peu dans toute expérience aussi. Non, ce qui a été très très dur au début, c'est bon, j'ai été élevée en France avec des valeurs françaises, bon, voilà, au début, quand on n'a pas d'internet, quand il y a une coupure de courant, quand on ne peut pas forcément prendre de douche quand on veut. Des petites choses comme ça, au début, c'est assez assez dur à gérer. Surtout que, bon, bah, on est dans un pays où on connaît rien, hein, on perd tous nos repères. Donc, quand même prendre une douche, ça devient pas possible. À des moments, c'est un petit peu dur. Mais au final, non, ça se passe très bien. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients qui me posent tout le temps cette question. C'est qu'en fait, les gens ici sont tellement extraordinaires qu'on oublie toutes ces futilités, en fait. Au début, un soir où j'avais pas d'internet, bon, ça voulait dire pas de film, pas de choses comme ça. Et au final, très vite, on se dit, bah non, en fait, enfin, je vais sortir, je vais aller parler à quelqu'un Mais c'est beaucoup
plus. Tu te raccordes à des choses normales de la vie, plus humaines, etc. Tu
exactement, exactement.
Tu te ressources en fait avec les bases.
C'est ça. C'est voilà, c'est vraiment en fait un retour aux bases.
Et vivre simplement finalement comme les gens là-bas, j'imagine.
C'est ça. Bon, après, faut pas oublier aussi que bon, je suis expatriée, hein, donc j'ai énormément d'avantages. Donc je vis en Afrique, je vis avec les inconvénients et les bonnes choses que peuvent apporter l'Afrique, mais je ne vis pas la vie des Africains ou des Zanzibarites. C'est aussi quelque chose qui est très, très différente.
Parce que tu dirais, pour nous décrire un petit peu le paysage, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer comment ça se passe là-bas quand on n'y est pas comme toi, c'est quoi en fait l'environnement, le cadre justement un petit peu en Afrique et notamment à Zanzibar?
Alors,
Vous pouvez faire une peinture assez globale.
Alors, bon, moi, c'est une image que c'est assez péjoratif, assez négatif. Mais pour donner l'idée aux gens, voilà, comme tu dis, qui connaissent pas, pour avoir un petit peu une idée, les villages ici, c'est un peu, enfin, moi, la première fois que je suis arrivée, j'avais l'impression que le village venait d'être bombardé. C'est de la pierre, c'est même pas des pierres, enfin les maisons c'est même pas de la pierre comme nous on a, c'est de la roche qui est posée histoire de faire
la terre un petit peu,
voilà c'est ça, c'est il y a trois tôles pour faire un espèce de toit. La plupart des gens n'ont pas d'électricité, il y a pas d'eau courante à Zanzibar, enfin dans les villages tout du moins il y a pas d'eau courante. Bon, voilà, c'est très pauvre. Les salaires sont très très bas. Il y a pas d'argent. Il y a encore beaucoup.
C'est quoi le salaire moyen à Zanzibar?
Alors moyen, je sais pas. Le SMIC c'est à peu près 120 euros. Donc pour ouais. Pour le mois. Donc voilà, c'est.
Et les gens arrivent à vivre, enfin, ils vivent donc pour 120 euros par mois, ceux qui touchent le SMIC.
C'est ça. Après, comme je disais, il y a beaucoup de troc. Hein. On est sur un système économique qui reste. Enfin, je parle dans les villages. Hein. C'est complètement différent dans les petits villages qu'à la capitale. Et surtout, la chose qu'il faut aussi savoir, c'est que Zanzibar est complètement différent de la Tanzanie. Hein. Enfin, c'est pas du tout comparable. Mais donc à Zanzibar, voilà, dans les petits villages, il y a encore du troc. Enfin, moi, j'ai des tomates, je te les change avec un poisson, des choses comme ça. Toi, tu sais faire ça, tu viens me réparer,
ah oui,
tu viens me réparer mon antenne télé. En échange, je te donne un kilo de riz. Enfin, bon, voilà, ça marche encore, encore comme ça.
Oui, c'est très rustique.
Exactement. Exactement. Donc moi, voilà.
Et toi, ça t'arrive d'en faire du troc, etc. C'est des choses que tu pratiques aussi pour te mettre un peu à la vie et au mode de consommation
non,
de
non,
là-bas.
Du tout. Voilà, c'est pour ça justement où je disais, moi, je vis en Afrique, mais j'ai pas du tout la vie. Enfin, j'ai une vie d'expatriée, donc c'est quand même très privilégié par rapport aux gens qui habitent ici. Après, on apprend beaucoup à se débrouiller, à recycler les choses, on jette moins, on est beaucoup moins dans une société de consommation qu'on peut avoir en Europe.
Oui, t'essayes quand même de vivre un petit peu à côté d'eux quand même et de respecter les cultures locales, si je peux dire ça comme
exactement,
ça.
Exactement, exactement. Moi, si je vis à l'étranger et en Afrique, c'est aussi pour vivre avec eux, échanger avec eux, m'adapter à eux. C'est pas moi qui arrive en Afrique avec mes gros sabots et qui dit maintenant ça se passe comme ça. Donc ça, il y a aucun souci. J'essaye au maximum de m'intégrer à eux et à leur façon de faire, à leur culture, au maximum.
Oui, et puis t'es assez obligée maintenant aussi avec ton poste de directrice, parce que finalement, pour revenir à ton histoire, maintenant, après tes 8 mois donc de stage que tu as adoré,
ouais.
Tu as eu la promotion de devenir la directrice de cet hôtel. Comment
Exactement.
Ça s'est passé?
Pour que je devienne directrice?
Ouais. Comment ça s'est passé, la fin de stage, la proposition, etc. Est-ce que tu t'y attendais?
Je commençais à comprendre que potentiellement je pouvais avoir une proposition pour quelque chose. Quoi, je savais pas du tout. Et en fait, bon, la grosse chance que j'ai eue, si je peux dire, c'est qu'à ce moment-là, le propriétaire de l'hôtel a racheté un autre établissement. Et en fait, la directrice qui était à Indigo est devenue directrice du groupe, si on peut dire, des deux hôtels. Et donc, du coup, moi, j'ai pu prendre la place ici, à Indigo.
Donc, tu as fait un petit retour en France quand même au milieu?
Oui, j'étais obligée de retourner en France pour finir mes études. Enfin, mes études, je veux dire, pour passer mon oral de, enfin, mon mémoire, quoi. Enfin, je sais plus comment on dit.
Pour recevoir ton diplôme, etc.
Exactement, voilà. Donc, du coup, je suis retournée en France pour un mois à peu près. Donc, ce qui m'a permis de prendre des vacances, régler ce qu'il y a à régler quand on part à l'étranger. Et voilà. Et puis, je suis revenue début
octobre. Tu as annoncé tout ça à ta famille aussi.
Exactement, exactement. Et retour donc à Zanzibar.
Et comment ça se passe à ce moment-là? Tu t'es pas dit. Enfin, t'as eu zéro appréhension par rapport au fait que voilà, tu t'engageais à aller passer ta vie quotidienne là-bas, qui avait pour l'instant pas de retour prévu. C'était pas du tout dans les mêmes conditions que ton premier départ.
Pas du tout, pas du tout, du tout. Enfin bon, moi j'ai beaucoup accroché avec les gens, la culture ici, je me sens extrêmement bien, pratiquement mieux qu'en France où je trouve qu'on est très fermé, on va pas vers les autres. Bon voilà, c'est très très voilà, c'est très français.
Je disais élitiste, mais c'est pas exactement le bon mot. Mais c'est vrai qu'en France, on a un mindset qui est un peu différent quand même des autres cultures du monde entier. Ici, on est bien plus froid, entre guillemets, et fermé.
Exactement.
Et je pense que tu le ressens d'autant plus à Zanzibar.
C'est ça, exactement. Et donc non, en revenir ici, pour moi, c'était vraiment j'étais vraiment très très contente. Et bon voilà, je connaissais.
Ouais, t'étais contente de revenir à ta source.
Exactement, exactement.
Et tu t'es fait un petit peu des amis là-bas sur place et t'as ton cercle maintenant.
Exactement. Alors ce que je dis tout le temps, c'est que j'ai deux cercles de relations, si je peux dire. J'ai une relation avec les locaux qui est très intéressante. Voilà, et c'est des gens très très riches, très intéressants. Et j'ai aussi en parallèle un cercle avec tous les expatriés, donc pas forcément français.
Okay, beaucoup, vous êtes nombreux.
On est pas mal, ouais. C'est beaucoup beaucoup d'Européens. Et ce qui est très agréable aussi, bon, de se retrouver un petit peu entre nous pour retrouver un petit peu des repères internationaux qui font du bien quand même de temps en temps ici.
Au milieu de tout ça, oui. Et au niveau des... Il n'y a pas de barrière de la langue pour toi là-bas, au niveau des locaux, de la vie même locale, parce que bon, il y a quand même aussi des jours où tu ne travailles pas, où tu fais autre chose, et quand tu vas, je sais pas, faire tes courses, tout ça, c'est... Il n'y a pas de barrière?
Alors, si, il y a quand même des barrières. Beaucoup parlent anglais, donc bon, on arrive quand même à se débrouiller, hein. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, hein. C'est pas non plus un cauchemar. Mais non, après, il y a beaucoup de personnes, ceux qui viennent de petits villages, qui, malheureusement, n'ont pas forcément eu accès à l'éducation, qui parlent, enfin, qui savent pas forcément lire, écrire le swahili, et donc ils savent encore moins parler l'anglais. Donc là, il a fallu apprendre un petit peu les bases du swahili, enfin au moins quelques mots pour pouvoir un minimum communiquer. Mais ce qui est aussi très intéressant, parce que je trouve que vivre dans un pays, c'est aussi important de parler la langue du pays. C'était une difficulté pour apprendre.
Et est-ce que tu, maintenant que ça fait un petit moment que tu y es, tu commences à vivre à leur manière, entre guillemets, je veux dire, de temps en temps, faire des repas locaux, sortir avec des locaux, avoir une vie un petit peu de ce type-là?
Oui, oui, ça arrive, ça arrive de faire des choses avec eux, d'aller dans les villages, des uns, des autres, voir un petit peu ce qui se passe, avoir des anecdotes un petit peu. Il y a pas mal de staff maintenant qui m'ont vraiment bien intégré à l'équipe, qui me présentent les enfants, qui montrent des photos, des choses comme ça. Non, franchement, c'est très très intéressant, et puis c'est des gens qui sont très très humains, qui voilà, et la famille est très importante pour eux, ils sont très humains, et enfin voilà, comme je disais au début, bon, ça a été aussi un petit peu difficile pour moi d'arriver, parce que bon, j'arrive à un poste qui est pas forcément facile pour s'intégrer, parce qu'il faut réussir à s'intégrer mais sans perdre la hiérarchie, si je peux dire. Et voilà.
Oui, ça a pas dû être facile, ça, au début, de devoir te dire je dois les encadrer, en fait, alors que je les connais pas forcément.
C'est ça, exactement. Et puis moi, ce qu'on m'avait dit avant même que j'arrive en stage, et ce qui est vraiment vrai, c'est qu'en fait ici ce sont des grands enfants. Donc voilà, il faut au début on n'y croit pas trop, mais en fait c'est vraiment ça. Bah, ils sont bon, un peu comme tout le monde, mais je veux dire, quand on leur donne quelque chose, il faut quand même pas oublier qu'il y a des barrières, parce que vite eux peuvent l'oublier, donc il faut leur rappeler. Comme des enfants, il faut les prendre par la main, mais voilà, il faut.
T'as déjà eu des problèmes par rapport à ça au niveau du travail?
Non.
Je veux dire,
non.
Dans la difficulté de compréhension ou
Non, ça va.
Sur des missions que t'aurais pu donner.
Ça, c'est non, relativement, ça se passe relativement bien. Après, moi, le staff ici avait déjà l'habitude d'avoir un management international, enfin français. Donc, du coup, bon, voilà, c'était pas non plus une nouveauté pour eux. C'était bon, la nouveauté de la personne, mais la façon de fonctionner, c'est resté relativement la même. Donc ça, c'était, ça n'a pas été ce qui est de plus dur.
T'as déjà dû, pour l'instant, recruter du nouveau staff et l'intégrer?
Ouais,
comment ça s'est fait?
Plus d'une fois. Alors bon, ici, ce qui est assez compliqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'école. Comme je disais, hein, bon, il y en a plein déjà qui ne vont pas en primaire, collège, bon, voilà, des choses comme ça. Donc ici, pratiquement personne n'a fait d'école, enfin d'hôtellerie ou des choses comme ça. Donc tout s'apprend essentiellement sur le tas, comme on dit. Et bon, voilà, les entretiens, c'est beaucoup au feeling. Après, j'essaye de poser des questions qui me paraissent essentielles pour moi, des valeurs qui me semblent importantes dans le travail, comme la ponctualité, l'hygiène, le fait de dire bonjour, merci. Bon, voilà, des choses comme ça, c'est des choses sur lesquelles je vais porter plus d'importance que bon, voilà, un CV, des écoles qui n'existent pas ici. Donc c'est assez, c'est beaucoup au feeling.
Oui, parce que t'essayes d'avoir un petit peu un entretien sympathique avec les personnes quand tu les rencontres, et voir de quoi ils sont capables aussi au niveau relationnel, surtout.
Exactement, c'est ça. Après, voilà, moi je leur explique aussi beaucoup comment ça fonctionne ici, ce que moi j'attends du travail, ce que j'attends d'eux. Et après, je vois si potentiellement ça peut matcher ou pas. Voilà, c'est beaucoup par rapport à ça. Après, ici, ils ont le droit de faire 3 mois d'essai. Donc bon, après aussi à voir pendant les 3 mois comment ça se passe vraiment concrètement au niveau du travail sur place, quoi.
Oui, puis ça te laisse le temps de pouvoir les évaluer, etc.
Exactement, c'est ça. Attends, Mathilde. Attends. Mambo. Zima, fresh. Excuse-moi, attends.
Pas de soucis. I don't know why is he.
Pas de souci.
Enfin, je le connais, mais il me saoule, lui, il débarque tout le temps comme ça, mais bon, c'est pas très grave, il fait comme si c'était chez lui, ici.
Parce que là, du coup, t'es confiné chez toi, t'as des personnes qui peuvent rentrer comme ça.
Moi, je suis toujours en travail partiel.
Au niveau de la vie là-bas, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les conditions, comment ça se fait là au niveau de tout ce qui est justement l'insécurité, comment tu gères tout ça toi au niveau de l'hôtel, parce que j'imagine que c'est pas du tout gardé de la même façon.
Alors nous à l'hôtel on a des Maasai d'un petit village près d'Arusha qui font la sécurité. Il faut savoir que donc les Maasai ce sont des guerriers hein, de base qui vivent sur leur terre, enfin dans leur terre, qui gardent leurs vaches et tout. Et donc du coup nous ici on a une équipe de 6 Maasai qui fait la sécurité à l'hôtel. Ils sont 6, donc on en a 3 la journée et 3 la nuit, ce qui permet voilà de tout le temps avoir une sécurité, enfin quelqu'un voilà qui surveille un petit peu l'établissement. Et ce qui est complètement indispensable ici à Zanzibar, tous les hôtels, tous les lieux, même certains privés ont quelqu'un qui surveille la maison. C'est complètement indispensable.
Et au niveau de, enfin quand t'es arrivé, c'est pas trop impressionnant de voir ça, de dire ok, je suis avec des Maasai, c'est vraiment la culture d'ici, ça se passe comme ça et moi j'ai pas mes règles à faire quoi.
Non, parce qu'au final, pour moi l'intégration s'est plutôt bien passée. J'ai tout de suite fait un pas vers eux, tout de suite un petit peu essayé à apprendre le swahili. Bon, à la base c'était très basique, hein, c'était juste bonjour, des choses comme ça. Et en fait, ça m'a tout de suite permis d'être complètement intégrée parmi eux. Ça s'est très bien fait et aussi bien d'un sens que dans l'autre pour eux que pour moi, ça a été assez. Ça s'est très bien passé.
Ok. Et tes clients, donc j'imagine que tu as pas mal d'internationaux, quand ils arrivent, est-ce que c'est vraiment, ils sont impressionnés ou ça se passe comment?
Alors moi, j'ai essentiellement des Français à l'hôtel, enfin j'ai aussi d'autres nationalités, mais essentiellement des Français. Il faut savoir que bon, Zanzibar, c'est une destination qui se fait essentiellement après, dans le schéma un petit peu basique, comment est vendue la destination, c'est essentiellement après un safari en Tanzanie. Donc du coup, d'accord, les gens qui arrivent à Zanzibar, la plupart ont déjà eu contact avec des Tanzaniens, des Maasai, et voilà. Donc quand ils arrivent ici, en général, ils sont pas.
Oui, c'est moins dépaysement que ceux.
Voilà, exactement.
Donc à l'année, tu dirais que tu as des bons taux d'occupation au niveau de Zanzibar. Enfin, c'est une destination qui marche bien.
C'est une destination qui marche très bien, qui marchait très bien au vu de la situation actuelle. Mais bon, ça, c'est une parenthèse pour le monde entier. Non, c'est une destination qui marche relativement bien. Après, Zanzibar, il y a des grosses saisons aussi qui font que l'activité varie quand même au fil de l'année. Le mois de avril, mai, c'est la grosse saison des pluies, donc c'est beaucoup moins touristique que les fêtes de fin d'année pour nous en France, décembre, février, qui sont le plein été pour nous ici. Et alors là, il y a vraiment un fort taux d'occupation et toute l'île est vraiment busy au niveau du tourisme.
D'accord, je vois. Et là, au final, c'est bien parce que vous, avec le coronavirus, comme tu disais, mai, avril, c'est la période des pluies, donc finalement vous n'allez pas perdre trop non plus sur ces mois-là.
Voilà, nous, ce qu'on dit, c'est jamais heureusement ou c'est jamais positif, hein. Mais nous, entre guillemets, ça tombe à la bonne période pour nous, parce que avril-mai, c'est pas des mois où on est le plus.
Où il y a beaucoup d'activités, quoi.
Donc, enfin. Oui. Voilà, on préfère que ça tombe maintenant qu'en plein mois de décembre, janvier, quoi.
Oui, ça c'est sûr. Là, vous allez avoir le temps de pouvoir bien vous remettre d'aplomb, j'espère. Du moins, oui, j'espère, jusqu'à ce moment-là.
Après, ce qui fait peur, mais bon, je pense à tout le monde, c'est savoir quand est-ce que réellement ça va repartir, quoi.
Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais au niveau de la vie sur place, là, en ce moment, c'est quoi les impacts principaux? Parce que j'imagine que c'est venu de vous, des internationaux, de connaître un petit peu les actualités dans le monde entier. Et comment ça s'est propagé un petit peu l'actualité au niveau de Zanzibar?
Au début, on voyait ça un petit peu de loin. Et puis bon, quand ça a commencé à être sérieux un petit peu en Europe, c'est là où on a commencé un petit peu à prendre les choses sérieusement, parce que nous, bon, bah, l'Europe, c'est nos principaux, les principaux touristes qui viennent à Zanzibar. Donc là, voilà, ça a commencé à être un petit peu difficile pour nous. Donc il a fallu commencer à réfléchir à des solutions et comment on allait envisager la suite. Puis après, on a eu rapidement une fermeture de l'aéroport de Zanzibar. Donc bon, bah, dans tous les cas,
plus de touristes, voilà, plus rien.
Les touristes ont arrêté de venir, exactement. Donc voilà, une recommandation de fermer les lieux publics, restaurants et les lieux publics. Plus le droit de faire des regroupements, des choses comme ça. On n'est pas confiné, mais voilà, le gouvernement demande quand même de faire attention et de respecter certaines règles.
Je vois. Donc c'est quand même assez, tout est à l'arrêt, quoi, comme de partout dans le monde, il n'y a plus vraiment de vie entre guillemets. Et puis toi, t'as plus de clients, donc forcément,
c'est exactement. La complète tous les hôtels sont fermés.
Je vois. Et au niveau de la vie là-bas, là, quand c'est calme comme ça, il y a quand même des activités à faire. Tu peux en profiter pour faire des choses sur place.
Alors on peut toujours faire des choses, hein, des activités, sortir un peu. Après, bon, comme je disais, pas mal de choses sont fermées, donc bon, bah c'est un petit peu tout à l'arrêt. Donc on essaye de s'occuper un petit peu comme on veut, comme on peut. On essaye de trouver des occupations. On prend le temps de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire.
Qu'on n'a pas tu peux aller à la plage, tu peux en profiter. Puis tu as l'hôtel pour toi-même. J'imagine que tu as la piscine, tu as tout.
Voilà, c'est ça. On se dit qu'on est quand même dans un endroit qui est relativement paradisiaque. On est relativement privilégié d'être ici plutôt que... qu'en Europe, dans un petit appartement pour les moins chanceux.
Et ça te fait pas peur le post-crise, si je peux dire ça comme ça? Enfin, comment vous l'appréhendez là-bas avec toi, tes équipes?
C'est une bonne question. J'avoue que pour l'instant, c'est un petit peu flou pour tout le monde. On essaye un petit peu d'imaginer plusieurs scénarios, mais voilà, on a un petit peu de mal à se projeter, à savoir quand est-ce que ça va se calmer en Europe, quand est-ce que Zanzibar va rouvrir l'aéroport. Voilà, est-ce qu'on pourra rouvrir d'un seul coup? Est-ce qu'il faudra faire des concessions sur des choses? Bon, voilà, c'est encore un petit peu des choses qu'on essaye de réfléchir et d'imaginer.
Parce que toi qui habites là-bas et qui maintenant connais bien le tourisme là-bas, tu penses que c'est une destination qui va être encore... favorisé ou bien qui va être complètement mise à part finalement, puisque c'est quand même une destination de tourisme loisir.
J'ai un petit peu de mal à me projeter. Non, je pense que c'est une destination qui restera attractive pour le monde du tourisme. Après, voilà, à voir. Faut aussi savoir que c'est un pays, bon, voilà, on est en Afrique. Il n'y a pas forcément d'hygiène, d'hygiène. Je m'entends. Hein, les hôpitaux comme nous on a en Europe, des choses comme ça.
Oui.
Voilà, est-ce que ça va pas freiner des gens de se dire est-ce que y a pas des risques, des choses comme ça, je sais pas trop.
D'accord. Bon. Et bah tu verras, en tout cas tu nous tiendras au courant.
Exactement. C'est ça.
Écoute, j'aimerais bien te poser une petite question aussi qui est ma question signature sur le podcast. Est-ce que tu pourrais me donner ta signification, enfin le sens que tu donnes au mot hospitality, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, notamment en anglais, mais en français, il y a plusieurs significations possibles. Alors, quel sens, toi, tu lui donnes ?
Pour moi, c'est vraiment l'accueil, le partage, donner du plaisir aux gens. Bon, après, en plus, moi, je le vois beaucoup sur ma destination. Il y a des gens qui économisent toute leur vie pour venir à Zanzibar. Et c'est vraiment un rêve d'une vie. Et voilà, pour moi, j'ai comme mission de leur offrir le plus beau souvenir de leur vie. Donc, voilà, c'est... Du service, du sourire, le contact, l'humain, beaucoup l'humain. Au final, on se rend compte que voilà, les gens cherchent un service, une qualité. Comme on a, nous, beaucoup en France, en Europe, des étoiles, un standing, des choses comme ça. Mais les gens attendent beaucoup aussi l'humain. Et pour moi, l'hospitality, voilà, c'est ça. C'est vraiment le côté humain, le partage, l'humain pour moi est beaucoup plus important que...
Oui, bah j'imagine. Et est-ce que ton staff aussi est dans toutes ces valeurs-là ? Est-ce que c'est quelque chose que tu leur transmets au quotidien ou qu'ils ont déjà naturellement, finalement, à Zanzibar ? Est-ce que les locaux sont naturellement des hôtes de renom ?
C'est complètement naturel chez eux. Ils sont toujours souriants, accueillants. Ils sont toujours là pour faire le petit plus et que le client se sente privilégié par rapport à l'autre. Ils ont vraiment ça dans le sang. Après, moi, la seule chose que j'essaye de leur faire comprendre et de leur inculquer, c'est les différences de valeurs qu'on peut avoir, sans qu'ils perdent leur culture, leur joie de vivre et tout. Mais voilà, des choses, par exemple, qu'ils n'ont pas forcément dans leur culture ici, c'est des choses très simples, dire bonjour, merci, bonne nuit, bonne soirée. Voilà, c'est moi, j'essaye juste de leur inculquer les valeurs qu'on peut avoir. En Europe.
D'accord.
Après, ici, ils sont complètement... Ils ont toujours les bras ouverts. Ils sont toujours... Ils ont toujours envie de donner, de partager. Et c'est ce qui est assez agréable. Et c'est ce qui marque le plus souvent les gens qui viennent à Zanzibar. Ils disent... Waouh, les gens ici, ils sont impressionnants. On a beaucoup à apprendre d'eux.
Ouais, j'imagine. C'est quoi ton plus beau souvenir à Zanzibar ? Enfin, même pas forcément un souvenir, mais quelle est ta plus belle image de ce que tu vis là-bas ?
C'est compliqué, hein. Ma plus belle image ? J'ai pas vraiment quelque chose en particulier, ce que je disais un petit peu depuis le début, hein, l'accueil des gens, de toujours, quoi qu'on fasse, ils sont toujours souriants, que ce soit pendant une excursion, une promenade, un chauffeur de taxi, ils sont toujours hyper contents de rendre service, c'est vraiment ça qui est assez, assez impressionnant, et puis c'est au quotidien, donc c'est assez... Assez touchant.
Et eux, par rapport aux expatriés, aucun problème notable, je veux dire, ils n'ont pas de ressenti par rapport à tout ça. Enfin, je veux dire, c'est que du ressenti positif, il n'y a pas de dualité, en fait, avec les expatriés.
Ça dépend, parce qu'il faut pas oublier que Zanzibar, bon, c'est une île où il y avait beaucoup d'esclavagisme avant. Donc ils ont un peu toujours cette image voilà, du blanc qui se pensait supérieur à eux. Voilà, en fait, s'ils voient que les expatriés se comportent en personnes complètement normales, va y avoir aucun souci. S'ils commencent à voir que l'expatrié les prend un petit peu enfin, moins que ce que
Oui, oui,
le. Bon, je sais pas comment dire sans être péjoratif, mais bon, voilà. Si les locaux n'ont pas l'impression d'être considérés comme des esclaves, si, enfin, voilà, on peut dire très brut, ça va se passer très bien. C'est juste, voilà, s'ils sentent qu'il y a un petit peu une différence, où là, par contre, ça se passera beaucoup moins bien.
Oui, il faut arriver à les comprendre et aussi pouvoir vivre ensemble sans qu'il y ait de friction et puis les comprendre et arriver à faire les choses dans le même sens qu'eux.
Et puis bon voilà, on reste des expatriés et puis on est chez eux, hein. C'est à nous de s'adapter à eux et pas à eux de s'adapter forcément à nous la façon dont on voit les choses, hein.
Oui. Puis d'après ce que j'ai compris, toi, ça n'a pas trop été un problème. C'est quelque chose que tu as rapidement réussi à faire. Donc, quels sont tes projets pour la suite? Je veux dire, bon, maintenant, tu sais que tu vas rester peut-être quelques mois, quelques années à Zanzibar, mais quand tu vois le futur un petit peu, tu te vois où? Rester à Zanzibar ou repartir?
Dans un futur proche, rester à Zanzibar, oui. Rester à Zanzibar, oui. Après, on verra bien. Je pars du principe que c'est beaucoup d'opportunités. Et voilà, l'avenir me dira où je serai, à faire quoi. Mais non, pour l'instant, c'est Zanzibar. Zanzibar. J'aime beaucoup l'hôtel où je travaille. Et voilà.
Et tu penses pas qu'un retour enfin, dans un pays un petit peu plus développé, etc., ça sera pas un trop gros choc culturel pour toi et ça serait pas possible pour toi de retravailler dans des endroits comme la France, comme l'Europe ou autre?
C'est une question que je me pose souvent. Après, je me dis, ce sera forcément difficile, hein, comme ça l'a été, comme je disais au début, d'arriver ici, hein. Comme je disais, pas d'électricité, pas d'eau, enfin des choses comme ça. Ça le sera forcément dans le sens inverse.
Oui, c'est une question d'adaptation.
Voilà, c'est une question d'adaptation. Et puis je vois plutôt à mon expérience à Zanzibar comme une énorme chance, opportunité. Déjà d'avoir un poste comme ça à mon âge en sortie d'études. Et puis même c'est très enrichissant au niveau professionnel, personnel. Et je pense que même si l'adaptation pour un autre pays sera forcément plus ou moins facile, mais de prendre cette expérience vraiment comme une chance et quelque chose qui m'aura enrichi pour la suite de mon parcours.
Bien sûr, toutes les expériences sont bonnes à prendre de toute façon, hein, surtout bah, à notre âge.
Exactement.
Parce que rappelle-moi, du coup, tu as
23 ans.
23 ans. Bah, c'est beau d'être déjà directrice à Zanzibar à 23 ans, c'est déjà quelque chose de bien. J'espère que tu es fière de toi.
Je suis plutôt contente, oui, je suis plutôt contente.
C'est déjà un beau début de parcours pour les métiers
C'est ça,
d'hôtellerie-restauration, du moins.
exactement.
Écoute Marie, je te remercie pour ton partage. C'était un bon moment
Ouais,
d'échange.
avec grand plaisir.
Tu m'as bien fait voyager et puis j'espère que ça plaira à bon nombre. Si tu as un petit mot pour la fin, qu'est-ce que tu nous dirais pour une personne qui voudrait éventuellement partir comme toi, faire sa vie à l'étranger, qu'est-ce que tu dirais?
Et bah, qu'il faut rester positif, que tout est possible et que même dans les moments un petit peu plus durs, parce qu'on est loin de nos repères, de notre famille, qu'on est dans une culture, un pays complètement différent. Il faut jamais abandonner, il faut jamais perdre ses objectifs de vie. Et puis, je pense que tout est possible dans la mesure où on s'en donne, la possibilité.
Les moyens. Très bien. Bah écoute, sur ces belles paroles, est-ce que tu as un endroit où on peut te retrouver, je ne sais pas, un Instagram, LinkedIn, une page, quelque chose ou...
Instagram essentiellement. Bon, c'est mon Instagram privé, mais tout le monde peut aller voir, me contacter.
Tu es une voyageuse, je sais que tu partages pas mal de photos de Zanzibar aussi, donc c'est bien aussi de voir des beaux paysages comme ça.
Exactement, un petit peu de soleil.
Tout à fait. Bon, un grand merci. Et puis, j'espère à très bientôt pour suivre tes aventures.
Avec grand plaisir.
Esprit Hospitality, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir parcouru l'épisode jusqu'ici. Et on se retrouve très vite pour une prochaine séance de découverte d'un autre univers, d'une autre vision, d'une philosophie de l'hospitality. Bye bye.